Tous les jours sur Radio Notre-Dame à 8h30 et 18h.
Matière à penser.
Matière à penser. Matière à penser. Matière à penser.
Une émission présentée par Pierre Mouracchini.
Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver. Certains trépignent d'impatience, d'autres se lamentent déjà. Une chose est certaine, nous n'allons pas échapper à ce mondial qui commence demain et qui va nous concerner un bon bout de temps, en tout cas il faut l'espérer, pour les passionnés. Alors essayons ce soir de réfléchir sur l'événement, plus largement aussi sur le sport et le Brésil. Le sport, école d'excellence pour les uns, monde du fric, du paraître, des magouilles pour les autres. Comment s'y retrouver? Et puis le Brésil, le pays du foot est aussi un grand pays catholique, avec l'histoire glorieuse d'une église qui depuis très longtemps a souvent pris le parti des plus pauvres, mais en même temps un pays où le catholicisme paraît en perte de vitesse. 90% des Brésiliens se déclaraient catholiques il y a 30 ans, une proportion qui est tombée à 65% en 2010. Pas facile pour nous catholiques de penser cette réalité. Pour nous aider à réfléchir ce soir, Émilie Pourbet, qui est rédactrice en chef du mensuel catholique offert, hein, on expliquera, c'est pas gratuit, hein, j'ai vu senti la différence, mensuel catholique offert, l'invisible, et l'invisible qui se veut, je cite, « une première porte d'accès à la foi et à l'Église ». Charles-Henri Dandigné, qui lui est responsable des pages culture de Famille Chrétienne et qui est l'auteur d'un dossier sur le sport. Je vous ai pris l'expression tout à l'heure, le sport école d'excellence, c'est le titre de votre dossier. J'ai oublié de dire que le numéro de l'Invisible de ce mois-ci, c'est pour ça que vous êtes là ce soir, Émilie, est entièrement consacré à la fois au Brésil et au sport, hein, à la fois le foot, tout à fait. Et puis, le père Rémi de Mindreville, qui est rédacteur en chef de la revue Jésuite Christus. On verra s'il y a des liens tout à l'heure. Une manière de penser la pédagogie ignatienne en fonction du sport ou du corps. Mais je l'ai invité aussi parce qu'on parlera ce soir d'un saint jésuite qui vient tout juste d'être canonisé et dont on vient de célébrer la fête ce 9 juin. Une belle figure de jésuite, saint José de Anchieta, qui a donné son nom à une ville carrément au Brésil. Merci à tous les trois d'être avec nous ce soir. J'aimerais tout d'abord savoir quel est votre rapport, parce que c'est quand même important pour la suite des choses. Quel est votre rapport au foot, première chose. Et puis une deuxième chose, j'aimerais savoir comment vous vivez ces grands moments de liesse populaire, vous savez, quand la finale de 98, comment vous avez vécu cela et comment ça a pu vous faire réfléchir ou prier ou quelque chose comme ça après coup. Parce que c'est quand même des moments assez uniques. Qu'est-ce qui commence, Émilie? Allez, Émilie.
Bonsoir Pierre.
Votre rapport au foot,
je le sens très fort. C'est un rapport très intime, effectivement, vous l'avez deviné.
Et intense.
Non, c'est vrai que le sport, c'est pas une passion pour moi. Cela dit, je ne dédaigne pas, enfin, je suis pas hostile de temps en temps quand il y a un grand match.
À le regarder,
à m'installer devant la télé ou voir aller dans un bar avec des amis, enfin, ouais. Ça m'est arrivé. Et puis, pour la Coupe du Monde de 98, effectivement, j'étais totalement en transe avec tous les Français. Je vibrais, enfin, surtout les derniers matchs, il faut dire que les Français ont vraiment commencé à se démarquer. Et voilà, donc c'est oui j'aime participer à cette liesse populaire. Je peux pas dire que je l'ai vécu de manière très spirituelle et en priant. En revanche, vraiment de manière très joyeuse, quoi, très simplement, de manière. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très bon enfant aussi. Enfin, voilà, la face externe du foot, disons, pour le Français moyen la Française moyenne que je suis. C'est...
Vous dites que vous l'avez pas vu spécialement en priant, parce qu'on sait que parfois notre nation a des problèmes vis-à-vis de son unité. C'est pas toujours qu'on est unis, regardez les élections, etc. Là, on a un peu cette impression qu'il y a des moments de communion populaire. Ça fait penser, ça donne à réfléchir. Enfin, je veux dire,
ça, c'est clair que c'est des moments extraordinaires. C'est vrai qu'en France, on aurait envie de le vivre plus souvent et de le vivre aussi dans d'autres domaines.
Je vais vous dire, ça me fait penser, au seul moment que je compare un tout petit peu, c'est quand j'ai vu à la fois Sarkozy et Hollande, juste quand Hollande venait d'être élu et ils ont été tous les deux à l'Arc de Triomphe. Bon, il y a des petits moments comme ça, on sent des moments un peu d'unité nationale. Charles-Henri Dandigné.
Alors mes rapports sont également assez lointains. Je regarde un match de foot à peu près tous les 4 ans.
Bon, d'accord, oui. Si ça tombe bien cette année.
Oui, oui, j'espère que ça se renouvellera cette année. Oui. C'est vrai que ce sont des moments assez extraordinaires. Ce sont des moments assez éphémères également. Il ne faut pas... trop idéalisé, parce que en 98 on a essayé de nous faire rêver avec cette équipe Black Blamber, et puis après quelques années plus tard l'enthousiasme est un petit peu retombé, donc il faut pas trop en attendre, mais c'est vrai que c'est, ça fait tout, il faut pas cracher dessus, et c'est, ce sont des moments très 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 agréables de ferveur, il faut les prendre tels qu'ils sont.
Père Rémy de Mindreville, jésuite, directeur de Christus. Oui. Moi, je vous vois très bien avec un ballon.
Ah bon? Oui. Ben, bonsoir d'abord. Et puis, oui, alors, en 1958, quand la France a été troisième à la Coupe du Monde qui se jouait en Suède, ouais, j'avais 11 ans, ouais, et j'habitais Reims.
D'accord. Alors, c'est donc, une grande cité du foot. Hein, là.
Voilà.
Reims était en première division à ce moment-là.
Il y avait 7 joueurs du Stade de Reims dans l'équipe de France. Donc, voilà, Coppa, Pinverne, Piantoni, Vincent, etc., Colonna, enfin, ouais, tous ces vieux noms du foot qui ont bercé toute ma jeunesse. Et puis, bah oui, moi, c'était pas tellement le foot, mon sport préféré. Au lycée, j'étais goal de handball.
Ah, d'accord, oui.
Et ensuite, j'ai fait du volleyball en compétition, voilà.
Et alors ces moments de ferveur, d'union nationale autour, comment vous étiez? Est-ce que vous vous rappelez de la finale de 98?
Ah, oui, oui.
Là, vous étiez jésuite
oui.
À ce moment-là.
Ah ben, non seulement j'étais jésuite, mais on était à Penbock, dans une session de la communauté vie chrétienne,
oui,
où on, disons, pendant une semaine, on s'exerce à vivre un peu en communauté, les uns avec les autres, parents, enfants, voilà, accompagnateurs, etc. Et bien entendu, pour la finale... on est tous allés communier devant le poste de télé. Oui. Ça c'est clair. Oui. Ah, oui. Mais c'est vrai que la France Black Blamber et l'image Black Blamber de l'équipe de 98, ça a quand même profondément marqué. Parce que ça a été quand même... On s'est dit, ben, peut-être c'est possible de vivre ensemble, même dans des quartiers difficiles, entre gens de culture et d'ethnie, de nationalité différentes, d'origines différentes, et tout ça. Et il y a quand même eu un espoir assez important dans les...
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui...
De ce côté-là, mais c'est retombé. Ah oui, je partage tout à fait ce qui était dit.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est retombé. Peut-être ça peut redémarrer un peu.
Mais c'est vrai que ça vend du rêve quand même. C'est vrai que cette France de 98, enfin ce qui s'est passé en 98, on a vraiment voulu y croire et on a vibré pas seulement sur le ballon, mais aussi sur effectivement tout ce que ça véhiculait d'une image possible d'une France qui se reconstruirait avec toutes ces populations issues de l'immigration et qui pourraient fonctionner ensemble. Et puis c'est vrai que voilà, les choses sont plus compliquées. Un ballon ne suffit pas finalement. Le ballon n'est pas Dieu, quoi.
Bien sûr. Mais ceci dit, dans tous les mots que vous avez utilisés, de fait, on vous avait dit, on est allé communier devant le, c'est vrai, hein. Je veux dire, il y a un vocabulaire religieux.
Passe, hein,
je repense à cette religion du foot que vous évoquez
dans le débat central, dans l'invisible de ce mois-ci.
Expliquez-nous comment ça fonctionne ce débat, parce que je trouve ça rigolo intéressant.
Oui.
C'est toujours Lily sans gêne.
Voilà. Alors tous les mois, oui, c'est un débat donc qui revient tous les mois, qui s'appelle D'accord, pas d'accord.
Oui.
Et en fait, à chaque fois, on aborde une question qui un peu polémique, qui concerne l'Église de près ou de loin. Donc ça peut être par exemple, l'historique, les croisades, l'inquisition, tous les sujets un peu qui reviennent dans les conversations. Ça peut être aussi, par exemple, dans le prochain numéro, ce sera un débat sur la sexualité. L'Église est-elle contre le plaisir sexuel, par exemple? Voilà. Et à chaque fois, donc, on a quelqu'un qui pose des questions qui s'appelle Lily Sangène, qui est en fait un personnage fictif, évidemment. Et donc, qui reprend un peu toutes les questions de
qui traînent, quoi.
Qui traînent, quoi. Voilà, dans l'air du temps, les questions que monsieur, madame, tout le monde, globalement, se pose. Enfin, qui sont plutôt des objections, en fait. Les gens sont persuadés.
Et qui n'a pas peur de les poser.
Et qui n'a pas peur, qui les pose de manière manière très franche. Et puis, en face, on interviewe un expert, que ce soit un religieux ou pas un religieux, selon les sujets.
Alors là, cette fois-ci, c'est pas un religieux.
Et donc, cette fois-ci, c'est pas un religieux.
C'est quelqu'un que vous avez rencontré également, Charles-Henri.
Voilà, Arnaud Boutéon, qui est assez connu dans le...
Oui, dans ce monde-là.
Dans ce monde-là, dans le monde catho, et qui est passionné de foot depuis toujours, en fait. C'est ça qui
alors, fait plaisir, Arnaud, écoutez, je cite un extrait, parce que c'est quand même rigolo. Je pense que Dieu se réjouit des bonnes choses de sa création, et donc aussi sûrement des gestes techniques de Messi et Ronaldo. Ouais. Il insiste sur la beauté, finalement, du foot. Charles-Henri.
Ben oui, je crois qu'il y a c'est vrai qu'il y a une beauté du foot, il y a une beauté du sport, la recherche du geste le plus beau possible, le geste pour lui-même, pas et c'est vrai qu'il y a, s'il y a des dérives dans le foot, on va sans doute en parler, dans le sport, c'est parce qu'il est devenu utilitaire, on veut en faire quelque chose qui rapporte de l'argent, et avoir un geste qui soit beau pour lui-même, parce que c'est beau, parce que pour faire plaisir aux gens qui regardent, ben c'est déjà une fin en soi, je crois, c'est ce que veut dire Arnaud Boutéon.
Mmh. Avec le fait que, parce que Dieu se réjouisse de sa création, mais finalement le sport, dans ses réalisations, ça fait partie de la création.
Ah oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Moi, ça me rappelle une remarque, ça touche pas au sport, mais Jean Mousset, lorsqu'il était aumônier national du mouvement des cadres, du mouvement chrétien des cadres, oui, disait que Dieu se réjouissait du TGV.
Oui.
Exactement pour la même raison. C'est-à-dire, c'est l'effort technique réalisé par des équipes ensemble pour amener à sa fin un produit qui est beau, qui marche, qui aide la vie, qui fait quelque chose qui a un impact sur la vie sociale, sur la vie de chacun, etc. Je crois que oui, Dieu se réjouit de sa création à certains moments.
Émilie, je pense que quelle que soit la discipline, effectivement, que ce soit le sport ou n'importe quelle discipline, je pense qu'on glorifie Dieu en développant ses talents au maximum et que c'est la parabole des talents. Je veux dire, qu'on parle de foot ou qu'on parle de technique, de n'importe quel art que ce soit, c'est une manière de glorifier Dieu. Et c'est vrai que ne pas développer ses talents, ne pas devenir le meilleur chercher en tout cas à devenir le meilleur footballeur ou le meilleur technicien, je ne sais pas quoi, le meilleur journaliste. C'est ne pas développer ses talents. Donc les footballeurs en ça, vraiment, effectivement, je pense, glorifient Dieu.
Parfois, on valorise davantage certains types de créations. Je dirais, de fait, on va pas jusqu'à parler souvent du TGV, mais c'est vrai que c'est un exemple intéressant. Mais bon, c'est l'œuvre d'art.
On va valoriser tout cela, effectivement.
Mais valoriser le beau geste, ouais, la belle équipe. Ouais. C'est vrai, on peut le comprendre. Et de fait, ça peut être l'occasion.
C'est ce qui fait quand même tout l'intérêt. Tout l'intérêt du sport en général, c'est que non seulement il y a des vainqueurs, mais le vainqueur n'est pas toujours celui qu'on croit. Mmh. Et puis il y a cette beauté du geste qui suppose une intelligence, un esprit, etc. Et pas simplement de la musculation, de l'entraînement, des choses comme ça. Ça dépasse l'esprit.
Je pense que certains sportifs poussent leur sport, leur spécialité jusqu'à une forme d'art. Zidane, par exemple, pour ne pas le nommer, moi-même qui suis tout sauf un spécialiste du foot, on peut pas ne pas y être sensible. Quand on voit certaines passes, certaines façons de toucher la balle, c'est assez extraordinaire parfois.
Donc il y a la beauté, il y a une espèce de réussite, une véritable création dans le beau jeu. Et puis j'ai l'impression qu'il y a autre chose, il y a tout un aspect de l'art comme d'une pédagogie, comme d'une école, vous dites école de vie, école d'excellence, un aspect de formation. Alors là vous avez des pédagogues, vous avez interviewé je crois Jean-Marie Petitclerc,
oui, c'est très intéressant,
qui rappelle combien...
C'était très intéressant, il m'a dit lui, il voyait trois vertus au sport.
On rappelle qui est Jean-Marie Petitclerc.
Ah oui, Jean-Marie Petitclerc, qui est le éducateur salésien, fondateur d'une association qui s'appelle Valdoco, qui s'adresse aux jeunes en difficulté. Et alors l'une des choses très intéressantes, c'est qu'il a affaire à des jeunes qui ont un peu un rapport difficile avec la loi, en général, avec la contrainte. Et par exemple, il leur fait faire de la voile, il leur fait faire une partie de foot. Et après, il y a un débriefing. Et après, il leur dit, ben voilà, comment ça s'est passé. Et si les jeunes sont contents, il dit, voilà, ça s'est bien passé parce que tout le monde a respecté les règles. Et ben dans la vie, c'est la même chose. Quand on respecte les règles, ça met de la fluidité, ça permet une bonne entente. L'absence de règles, c'est la jungle et c'est la violence. Et ça, c'est quelque chose que les jeunes comprennent très, très bien.
Émilie.
Oui, de la même manière, effectivement, nous, on a fait un article là, dans ce numéro sur le foot. On est allé faire un reportage à Apprenti d'Auteuil, dans une section spéciale foot, le collège Saint-Jean-de-Sanois. Et effectivement, on voit vraiment aussi que pour les jeunes en difficulté en particulier, c'est vraiment le sport est un excellent moyen de réapprendre, enfin d'apprendre plutôt, la vie en société, d'apprendre le respect de l'autre, d'apprendre à se dépasser, d'apprendre à se donner, d'apprendre à, voilà, d'apprendre la victoire, d'apprendre la défaite.
Ce que vous dites là, tous les deux, c'est uniquement un rêve, des vœux, enfin on pourrait se dire c'est des vœux pieux, parce que je crois que nos gouvernants, par exemple, on se sont dit souvent dans les banlieues difficiles, bah, il faut mettre davantage de terrains de foot, davantage d'éducateurs sportifs, etc. Est-ce que, de fait, ça fonctionne? Alors, on a le témoignage de Jean-Marie Petitclerc. On aimerait peut-être que... Parce que c'est tout le temps lui qu'on interviewe, je veux dire.
Je ne crois pas qu'il faille attendre du foot des miracles. Le sport en soi, j'ai interrogé quelqu'un qui s'appelle Paul Dietschy, qui
est un historien.
Un historien, oui. Voilà. Et il me dit, le sport n'a pas de valeur, il a les valeurs qu'on met dedans. C'est un outil, c'est la meilleure et la pire des choses. Et si un sport, Hitler a utilisé le sport, voilà. Donc tout le monde peut utiliser le sport. Je crois que ce qui est très important, c'est l'esprit dans lequel on va initier les jeunes au football ou à n'importe quel sport d'équipe pour les amener à se dépasser et à les faire meilleurs qu'ils ne sont, avec l'esprit d'équipe notamment.
On marque une première pause. Ce soir, c'est le foot, la Coupe du Monde, le Brésil, on n'y est pas encore. C'est demain.
Radio Notre-Dame.
Baroque brésilien, composé par un jésuite et joué par l'association du chant choral de Rio. On évoquera tout à l'heure cette participation en particulier peut-être des jésuites à la finalement à la fondation culturelle du Brésil. Nous sommes avec Émilie Pourbet, donc l'invisible, Charles-Henri Dandigné, famille chrétienne, le père Rémy de Mindreville, Christus. Et on essayait de se penser un peu sur les questions autour du foot. De fait, on peut guère dire de mal du foot avec le pape que l'on a, qui dit explicitement qu'il soutient, je crois qu'il paye même sa cotisation d'un club de foot à Buenos Aires. Le pape récemment a dit, s'il n'y a pas de groupe sportif en paroisse, il manque quelque chose. Et manifestement, là, il faisait allusion à des souvenirs en particulier dans nos pays. C'est vrai que en particulier en France, les patronages, comme le cinéma d'ailleurs, sont souvent, enfin, le cinéma comme le sport et le foot sont souvent issus de patronages. Charles-Henri Dandigné.
Pour faire un tout petit historique très rapide, le foot est une invention anglaise du 19e siècle. Il a été inventé dans les public schools pour canaliser la violence des élèves. Et ça n'a pas échappé aux éducateurs français, notamment aux prêtres. Et donc les prêtres français et italiens, et je crois aussi dans d'autres, espagnols également, via les patronages, ont importé ce football, l'ont catholicisé en quelque sorte. D'une part aussi cet aspect disciplinaire d'apprentissage de règles, d'apprentissage d'esprit d'équipe, et puis aussi pour attirer des jeunes, parce qu'on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Et donc Jules Rimet, par exemple, dont on parle un petit peu, il y avait à voir un film bientôt avec Depardieu sur Jules Rimet. Jules Rimet
c'est qui Jules Rimet? C'est lui qui a fondé la Coupe du Monde.
Oui, exactement. C'est quand même 1904, je crois.
Comment on disait?
C'est la Coupe Jules Rimet.
Ils étaient une personnalité catholique assez connue à l'époque.
Alors lié au catholicisme social, je veux dire.
Exactement. Oui. Et donc l'Église et le football sont partis liés. Donc le pape s'inscrit dans cette tradition-là.
Mais ceci dit, parce que il l'a dit ça quand il recevait 50 000 sportifs italiens qui font partie d'une association catholique de sportifs en Italie, ça c'est impossible en France aujourd'hui. Vous voulez vous savez où est-ce qu'on peut réunir 50 000 sportifs catholiques en France? Moi, j'y crois pas beaucoup. Ça fait plutôt partie.
On n'est pas dans ce paysage-là.
On n'est plus dans ce paysage-là, mais
faut quand même se souvenir que la JOCR est un club de patronage qui se joue sur le stade de l'Abbé Deschamps.
L'Abbé, alors c'est bien.
Que le champion de France de cette année du basket est le club de Limoges qui est issu d'une paroisse.
Assez courant. J'entends bien ce que vous dites, mais j'ai toujours l'impression, c'est beau de l'évoquer, mais qu'on fait allusion
au passé,
à une belle histoire où le christianisme était vraiment...
Oui, mais j'entendais l'autre soir Vincent de Beaucoudray sur Antenne 2, qui est un scolastique jésuite qui s'occupe des scouts à Saint-Denis et des scouts plein vent à Saint-Denis. Plein vent, ça veut dire que ça réunit tous les jeunes qui le désirent.
D'accord.
Et en particulier,
il y a des musulmans, il y a des catholiques.
Beaucoup de jeunes musulmans. D'accord. Et de jeunes catholiques.
D'accord.
Et là, on joue ensemble, on vit ensemble. Il y a toute une pédagogie par le jeu, par le sport, par la manière de se rapporter les uns aux autres, en faisant la cuisine ensemble, en faisant et ça a de l'avenir. Ça rejoint ces clubs sportifs d'autrefois. Au 19e siècle, c'était le foot. Au 21e, ça va être d'apprendre à vivre d'une autre manière, mais de toute façon, on a besoin d'apprendre à vivre ensemble.
Donc, tout n'est pas de l'ordre du passé, mais il y a des choses qui vivent en particulier avec ce jeune scolastique. Quand on dit un scolastique, c'est un jeune en formation chez vous.
C'est un séminariste, on va dire.
Est-ce que l'exemple, au fait, des grands footballeurs est important? Parce que dans vos numéros, vous interviewez, il y a ce fameux Kaka qui est interviewé dans l'Invisible, il y en a d'autres.
Il y a un gardien de but, celui de, certainement ce n'est pas une star, mais enfin nous l'avons interviewé, la famille chrétienne, il s'appelle Paul Chariot, Il a 20 ans, il est gardien de but de Valenciennes.
Oui.
Et il a été champion du monde des moins de 20 ans en 2013. Mmh. Et il raconte, il a fait un petit témoignage.
C'est ça. Alors moi, je l'ai lu. Oui. Et en particulier, c'est ce passage par Clairefontaine. C'est là, c'est lui, ça, qui est allé il y a 12 ans. Et il va comme interne à Clairefontaine. Voilà. Et c'est là qu'il dit qu'il apprend à faire sa lessive tout seul. Voilà.
Il insiste sur le côté éducatif que ça a eu avec un entraîneur qui n'était pas uniquement les valeurs techniques, mais aussi les valeurs morales de bonne éducation, de dire bonjour à tout le monde, enfin des choses très simples, mais après tout on commence par là.
C'est vrai que dans le monde, parce que souvent on a une image un peu pourrie du monde du foot, quand même il y a beaucoup d'excès, beaucoup de scandales, mais il y a quand même effectivement des hommes vraiment bien, je pense qu'il faut le souligner. Et alors il se trouve que, peut-être parce que je suis un peu dans ce monde-là, mais quand même les chrétiens en particulier se dénotent. Nous on a interviewé plusieurs footballeurs, notamment donc Kaka qui lui est évangélique, mais son témoignage est vraiment très beau et on sent que c'est un homme qui recherche à devenir une bonne personne, quoi, vraiment qui a un désir de droiture. Alors après, je suis pas allée vérifier sa vie, mais je veux dire, en tout cas, il y a quand même dans le discours, c'est cohérent, quoi. Je veux dire, c'est pas les scandales. Et puis on avait interviewé aussi Baffé Gomis, qui pareil, c'est vraiment lui, il est catholique, dans mon souvenir, et vraiment un homme aussi très droit, très un homme bon, quoi. On sent vraiment un homme qui vit sa foi, quoi. Et voilà. Enfin donc, il y en a d'autres. Là, on a cité aussi juste dans ce numéro aussi Mathieu Debuchy, qui est dans l'équipe de Newcastle United et qui lui...
Vous allez devenir spécialiste ?
Ah ben oui, non mais j'y travaille Pierre, hein. Vraiment, deux jours, deux nuits, vraiment ça devient ma passion. Et donc lui, il dit quand même qu'il va effectivement, il va à l'église, il prie tous les soirs, etc. Il essaye de devenir meilleur. Et puis là, dans le JDD de ce week-end, il y avait dans le journal du dimanche, il y avait Cabaye aussi quand même, qui est aussi une star, qui témoigne aussi vraiment de sa foi, qui dit voilà, plus je mûris, plus ma foi grandit. Aujourd'hui, je ne peux plus faire sans. Je prie chez moi matin, midi, soir, etc. Je lis des ouvrages et il a dit que pour partir au mondial, là, il avait emporté un ouvrage sur la Bible et la Bible. Les évangiles, je crois, dans son sac. Enfin voilà, donc c'est quand même, je veux dire, le monde du sport rejoint le monde des valeurs, de l'éthique et de la foi. Et donc je pense que pour des jeunes,
j'aimerais que vous ayez tout à fait raison. Enfin,
non, mais je pense que pour des jeunes, je me dis, bien qu'il y ait dans ce monde d'accord. Mais il y a quand même des figures qui se dénotent et donc ça peut être un exemple pour des jeunes aussi en recherche de repères.
Charles-Henri, ajouter quelque chose là-dessus.
N'oublions pas le rugby.
Oui, on dit rugby protestant, football catholique.
Peut-être.
Est-ce qu'on n'a pas dit ça parfois?
Mais soyons écuméniques.
Mais tout à fait, bien sûr. Non, et c'est pas vrai, on dit pas
je
ça.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est aussi simple que
ça. Je l'ai entendu, en tout cas. Oui, allez-y, n'oublions pas le rugby.
En tout cas, le rugby est aussi une école d'excellence. Nous avons interviewé Pierrick Gunther, qui va rejoindre le Lyon Olympique Universitaire. Sur une culture toute récente. Et alors lui insiste beaucoup sur l'aspect esprit d'équipe. Et il dit à quel point c'est vital dans le rugby.
Est-ce que c'est pas plus fort dans le rugby que dans le foot?
Je crois que c'est ce que dit Paul Dietschy, qui est un spécialiste. Ouais. Il dit que en foot, il y a plus d'individualité, c'est-à-dire que un grand sportif peut sauver une équipe. Alors dans le rugby, la star c'est l'équipe. Et si vous êtes un petit peu individuel, un peu perso, vous êtes mort.
Il y a d'ailleurs une belle définition de l'équipe, tout simplement, de Jules Rimet. Ça me faisait penser à quelque chose. Une équipe, c'est-à-dire une réunion d'hommes qui s'étant perfectionnés individuellement, harmonisent leurs efforts en vue d'atteindre le même but, qui obéissent à une autorité librement acceptée. C'est un image d'une communauté. Tout est dit, vous avez raison. Oui. Bon, on passe au Brésil, parce que ça se passe au Brésil, je vous le signale. On passe
peut-être juste une
allez-y.
deux petites choses. La première, c'est que moi, je suis tout de même très frappé par le fait que les plus grands sportifs, on a évoqué Zidane tout à l'heure, mais on pourrait évoquer Federer ou d'autres, ou Pete Sampras ou d'autres.
Donc le tennis, là.
Le tennis, oui, mais aussi d'autres footballeurs ou d'autres athlètes, sont des gens qui consacrent leur vie à autre chose, qui ne sont pas complètement afféodés au sport. Il y a de la place pour autre chose.
Ah, c'est sûr, ça? Ça se voit, ça? Vous le savez, ça?
Ah oui, ça se sait, bien sûr. Oui, ouais. Ça se sait.
C'est-à-dire, pour des...
C'est des gens qui ont une vie familiale, ce sont des gens qui ont une vie sociale, c'est des gens qui protègent leur vie privée, c'est des gens qui, ou au moins une, ce qu'ils peuvent en protéger, mais enfin, ils le font quand même. Et c'est des gens qui sont souvent présents à des...
Dans des fondations, dans des choses comme ça.
Ou qui font de l'éducatif après, ou qui... Voilà, ça
et là encore, c'est pas... Ce que vous dites là, c'est pas une façade, c'est pas une manière de tromper le monde, non? Vous pensez qu'il y a quelque chose?
On peut toujours, mais je pense qu'il y a aussi des choses très très tangibles, quoi.
Je pense aussi qu'ils ont besoin de ça, justement, parce que c'est quand même c'est très dur le métier de sportif de très haut niveau comme ça. Et je pense que justement ils ont besoin de cet équilibre familial. Beaucoup le disent là, dans les témoignages de ceux qui sont chrétiens. Ils disent que ça leur donne la force, en fait. C'est là qu'ils viennent puiser la force et l'équilibre pour vivre cette vie qui est quand même extrêmement difficile. Et ils viennent se ressourcer dans leur vie spirituelle et puis dans leur vie familiale, donc ils ont besoin. Puis, enfin, voilà, non, je pense que pour certains, quand même, pour beaucoup, même, c'est très important.
La deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand même, il y a dans la Bible un auteur du Nouveau Testament, un grand saint du Nouveau Testament, qui fait passer le christianisme au plan mondial et qui n'arrête pas d'utiliser la métaphore sportive.
Oui, bien sûr.
Ce qui est marrant, c'est qu'il utilise... On s'attendrait à ce qu'il utilise beaucoup le combat, et il l'utilise, mais là où c'est intéressant, c'est qu'il utilise beaucoup plus la course. C'est la course qui revient sans arrêt, et où on est tendu en avant, où il faut...
Là, c'est de l'individuel, là.
Oui, alors là, c'est de l'individuel. Mais ouais. Avec les autres, il parle de course solidaire. Voilà, il faut décrocher, chacun doit... C'est un peu ce que disait Émilie tout à l'heure à propos des talents. C'est-à-dire, si chacun va décrocher son trophée, sa victoire sur lui-même, dans sa course, etc., c'est toute l'Église qui est... qui est gagnante.
Et Émilie,
c'est intéressant que la foi soit présentée aussi sous cette forme-là.
Oui, je trouve qu'effectivement, avant de venir à l'émission, là, je me disais, c'est fou, si on mettait... autant d'ardeur à développer notre relation à Dieu et que les sportifs à devenir ce qu'ils sont devenus, enfin ces grands sportifs, je me dis on serait nombreux à être déjà saints. Enfin, c'est fou quoi, tout ce travail pour arriver à devenir un grand sportif.
Sans parler par exemple de la 16. Regardez comment nous qui ne supportons plus un seul jeûne ou c'est pas très bon, regardez ce que s'impose les sportifs comme ascèse de leur corps. Enfin
je crois que le sport est vraiment un domaine où on s'autorise des choses que le reste de la société n'autorise pas ou plus. La 16 était un excellent exemple. L'esprit d'équipe, le respect des règles, le dépassement de soi, l'absence de mixité, enfin tout ça est très différent, mais l'absence de mixité est devenu complètement tabou dans notre société, on n'a pas le droit dans le sport c'est quelque chose de normal. Et ou le patriotisme, le fait d'entonner un hymne national dans un stade ou de brandir un drapeau, c'est que ça serait complètement bizarre et même un peu ringard ailleurs. Mais dans un stade, on a le droit.
Oui, mais je mettrais juste un petit bémol parce que c'est parce qu'on regarde le mondial de foot et le sport de très haut niveau. Mais le nombre de gens qui courent dans Paris tous les matins, au Champ de Mars, patronne chez moi, ou dans le 15e, là, tout ça, ou qui font... Enfin, vous vous rendez compte, quand même, le marathon de New York, 40 000 personnes, je crois, cette année.
Ah, qu'est-ce que vous en concluez?
Eh bien, qu'est-ce que j'en conclue? J'en conclue que peut-être la pratique sportive, à très haut niveau, c'est quelques individualités, mais c'est peut-être aussi beaucoup de gens qui cherchent à pratiquer un sport et qui pratiquent un peu un sport.
Pourquoi? Pour garder la ligne? Pourquoi? Parce que ça aussi,
c'est la religion du corps aussi, évidemment.
Ça peut être la religion, bien sûr, on peut tomber dans le culte du corps, mais on peut tout simplement avoir envie de faire des choses agréables, de mieux maîtriser son corps, de pouvoir être plus à l'aise dans les gestes.
Au fait, c'est important pour un chrétien, ça, d'être suffisamment dominer son corps pour le rendre fluide, pour le rendre...
On est plus en adéquation avec soi-même, on est plus en cohérence.
Mais quand même la religion de l'incarnation par excellence. Ouais. C'est vrai que...
Nous sommes la religion du corps, un peu.
La religion du corps, c'est sûr que c'est pour ça aussi que c'est bien de s'intéresser au sport.
Comment, vous disiez?
Oui, il y a une dimension. du corps importante dans la religion.
Je voulais juste dire par rapport à, pour finir, enfin, le pape au dernier JMJ de Rio a exhorté les jeunes en leur demandant d'être justement de vrais athlètes du Christ. Et je trouve que c'est très beau de rejoindre les jeunes parce que c'est facile de leur parler du sport, c'est plus facile de, mais de faire le pont avec la recherche de Dieu, je trouve que c'est très...
On marque la pause et après, on parle du Brésil.
La conquête.
Radio Notre-Dame.
Manhã, tão bonita manhã. Na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. La la la, la la la, la la la.
Voilà, ça c'est la musique du carnaval de Rio. Voilà, nous sommes au Brésil avec Émilie Pourbet, Charles-Henri Dandigné, le père Rémi de Mindreville. Vous nous parliez tout à l'heure, tous les trois, de ce sport, de ce foot qui peut arriver à canaliser la violence. Le Brésil est le pays du foot et le pays où semble-t-il manifestement un pays extrêmement violent. Alors ça paraît contradictoire.
Oui, bien sûr, mais je pense que le sport en soi, je ne sais pas si le sport peut canaliser la violence. C'est ce qui peut canaliser la violence, c'est le sport pratiqué et avec des entraîneurs qui entraînent les jeunes, notamment dans le bon sens, avec un esprit, en leur expliquant que c'est un jeu, que ça n'est qu'un jeu, que quand on gagne, il faut pas écraser l'adversaire, que quand on perd, il faut savoir accepter la défaite, qu'il faut savoir voir plus loin, qu'il faut accepter l'adversité. C'est en acceptant l'adversité, on se mesure soi-même et donc on se connaît mieux. Encore une fois, c'est vraiment une question d'esprit dans lequel c'est fait. Ça peut être, le sport peut être quelque chose de tout à fait détestable. D'ailleurs, le football de haut niveau nous prouve tous les jours, d'une certaine manière. Il ne faut pas idéaliser le sport.
Les Jésuites et le Brésil. Moi, j'aimerais qu'on évoque cette figure de José de Anchieta. Se rappeler que José de Anchieta fait partie de ces Jésuites qui ont fondé Sao Paulo.
Absolument.
Qui ont créé la...
Alors, puisqu'on est sur le terrain de sport...
Allez-y.
Je dirais que...
C'était pas un footballeur,
C'était pas un footballeur, voilà. Mais je dirais surtout qu'on a souvent dans la tête la représentation du missionnaire type François Xavier. Allez. C'est-à-dire justement un très grand sportif, il était réputé pour ça, à l'université de Paris où il avait fait ses études avec Ignace. Et il était une espèce de force de la nature et bardé de diplômes. Et José de Anchieta, quelques années après, parce qu'il naît en 1534 et il rentre dans la compagnie... en 1551, je crois, quelque chose comme
Du vivant d'Ignace.
Du vivant d'Ignace, c'est Ignace qui l'envoie en Amérique latine. Lui est plutôt quelqu'un de chétif et de douloureux, et c'est d'ailleurs pour... Il avait d'énormes douleurs de dos, qu'on attribue peut-être aujourd'hui à de la tuberculose des os, mais on ne sait pas bien. Et on a pensé que le climat du Brésil et de l'Amérique latine serait meilleur pour lui. Et du coup, Ignace l'a envoyé là-bas. Et donc, il part à 19 ans au Brésil, dont il ne reviendra pas.
Mmh. Il est ordonné prêtre là-bas.
Hein. Il est ordonné prêtre là-bas, à San Salvador, en 1566, je crois. Mmh. Et il n'a pas fait d'études, disons, très poussées. Il a été à l'université de Coimbra, qui était quand même la plus brillante du Portugal, mais il arrête assez vite. Et cet homme était, dès le début, avait tapé dans l'œil d'Ignace et d'un certain nombre de jésuites à cause de la joie qu'il habitait et qui habitait son discernement. Mmh. Et c'est ça qui va déployer là-bas. Et du coup, ça m'a fait relire un peu autrement le début de du texte du pape, la joie de l'évangile. Parce qu'il commence par la joie, justement, la joie de la compagnie du Christ, d'être en amitié avec le Christ, etc. Et c'est ça qu'il va faire là-bas, en fait, hein, très vite. Donc, il va fonder Sao Paulo. Mmh. Il fondera aussi Rio de Janeiro. Mmh.
Alors, il fait des dictionnaires entre les langues brésiliennes. Oui. Enfin, il y a tout un travail.
Il est réputé pour deux choses. Hein. Ouais. Il est réputé. C'est un homme très très relationnel, et il est réputé pour deux choses. La première, c'est d'être dans des contextes extrêmement violents entre tribus, entre mamelouks, les descendants des Portugais mariés à des Indiens, et puis les Indiens eux-mêmes, etc. Il y a beaucoup de violence. C'est un pays qui est en train de bouger, il y a beaucoup de violence. Et lui, là-dedans, va être une sorte d'artisan de paix, on peut dire, très soucieux de la dignité des plus chétives, des plus démunis, des plus pauvres, de ceux qui traînent dans les hôpitaux, etc. Enfin, voilà. Il est très, très proche de tout ça, un acteur de paix et de santé. Et puis, la langue. Il a plaisir à communiquer avec les gens, à chercher à comprendre...
À apprendre leur langue, à apprendre les langues.
Ouais. Alors, il a d'ailleurs beaucoup appris d'eux, y compris, sans doute, c'est grâce à ça, parce que il a appris à se soigner à partir des plantes dont ces gens-là avaient toute la sagesse et tout le savoir. Et il y a eu là un terrain de communication très fort, et donc de fait, il a fait la première grammaire de la langue Tupi, donc de la langue des Guarani, des Indiens, et puis il a écrit énormément de poèmes, entre autres à la Vierge, et un poème à la Vierge, mais aussi des pièces de théâtre qui sont en même temps des espèces de catéchèses. Il y a des répliques qui sont très évangéliques, etc., des pièces de théâtre, des opéras, etc. Il est considéré comme le père de la culture et de la littérature brésilienne, et pratiquement dans énormément de villes, il y a une rue qui porte son nom.
C'est la glorieuse histoire, finalement, de la présence des missionnaires. Il y a comme ça de très, très belles figures. Oui. Ça va jusqu'au XXe siècle, au cardinal Arns, évidemment, à Dom Helder Camara. Et en même temps, en ce XXe siècle, cette situation est extrêmement curieuse. On a l'impression que le catholicisme perd vraiment du terrain. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était 90% il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est 65%. Moi, ça me fait toujours... Ça me rend, alors même si c'est des évangéliques, hein, je reconnais que ce sont tout à fait des chrétiens, n'empêche que ça met mal à l'aise cette situation-là. Comment est-ce qu'on peut penser sereinement ce type de choses où on voit le catholicisme perdre du terrain? Bon, alors c'est peut-être pour ma gloriole personnelle, je sais pas, c'est peut-être c'est peut-être mon orgueil qui est en jeu là-dedans, c'est possible. N'empêche que comment est-ce qu'on peut penser ça, cher père?
Il y a beaucoup d'analyses qui vont dans le même sens, qui est de dire qu'il y a un peu une usure de l'institution, du caractère institutionnel de l'Église catholique avec ses structures très, très marquées, très encadrantes, etc. Et que au fond, peut-être qu'aujourd'hui, il y a un pas à faire vers une expression plus libre, une expression plus spontanée, plus
chaude, hein, plus chaleureuse,
chaleureuse, etc. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est vrai là-bas, bon, bien sûr, mais c'est vrai chez nous aussi, hein, c'est vrai dans d'autres.
Est-ce que véritablement, c'est vrai
mais
chez nous?
Oui. Ah, bah,
Oui, il y a une légère projection des, des évangéliques. Oh. Les églises évangéliques progressent, mais c'est quand même.
Ah non, je ne pensais pas à la progression des évangélistes. Je pensais au fait que, de fait, il pourrait y avoir une liturgie qui soit plus en prise les aspirations des.
Alors, dans votre journal, L'Invisible, là, il y a cette présentation de ce grand sanctuaire Notre-Dame d'Aparicédar. Je veux dire, c'est le plus grand sanctuaire marial. Hein, je veux dire, on en a entendu parler l'année dernière pour les gyms, c'est absolument gigantesque et tout. Il y a des réalités où il y a quand même encore, de fait, des millions de gens qui se rassemblent et tout.
Oui. Il y a quand même, je pense qu'il y a quand même, enfin, d'après ce que justement me racontait Hubert de Torcy, qui a écrit cet article sur Notre-Dame d'Aparicida et donc qui est allé au Brésil l'année dernière, qui me disait que effectivement il y avait quand même une redynamisation du côté catholique avec le renouveau charismatique au Brésil.
Qu'on appelle le pancotisme catholique, avec un certain nombre de prêtres un peu vedettes par certains côtés.
Et puis aussi, il m'a dit ce qu'il a vraiment beaucoup frappé dans ce pays. Déjà, c'est que c'était c'est un pays où tout le monde est chrétien. Il dit c'est extraordinaire qu'on visite, on a visité les prisons, on a prié avec tous les prisonniers, avec le directeur de la prison qui a lui-même un Sacré-Cœur dans son bureau. Enfin, il dit partout, c'est chrétien à 100%, quoi, quelle que soit l'obédience. Et puis, il dit ce qui est très étonnant aussi, c'est de voir la place des médias catholiques au Brésil, quoi. C'est vraiment, les Brésiliens accordent énormément d'importance à avoir des médias catholiques et à évangéliser. Ça a beau être un pays à 100% chrétien, ils passent leur temps à évangéliser à travers les médias, et notamment il paraît qu'il y a 4 télés catholiques qui font plus que l'audience de TF1. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est vraiment, ils ont ce souci d'annoncer le Christ en permanence et avec l'annonce du kérigme tout le temps dans les médias. Et alors que c'est un pays déjà chrétien, mais ils sont quand même dans cette annonce, voilà, ce souci de l'annonce, ouais.
Charles-Henri. Je connais pas du tout le Brésil. Je voudrais juste, à propos des évangéliques, ne pas en rester trop au. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de succès en Amérique du Sud, en Afrique. Très souvent, c'est un peu un feu de paille parce que c'est une religion très simple, un peu simplifiée. C'est un christianisme simplifié par rapport au catholicisme. Mmh. Alors, c'est facile d'y adhérer.
C'est séduisant.
C'est plus dans la séduction que dans la véritable conversion. Et c'est très facile de l'embraser. L'embrasser, ça donne pas toujours beaucoup de résultats.
On dit souvent que le catholicisme est trop intellectuel, trop compliqué.
Il est exigeant.
Un peu cérébral.
Il est exigeant. Oui. Bien sûr, il faut qu'il reste exigeant. Oui, tout à fait. Mais enfin, vous savez bien que on le dit souvent. Par exemple, les gens qui se préparent à devenir au baptême, c'est très long, et souvent certains disparaissent et on ne sait pas où on va les retrouver.
Spontanéité, peut-être, ils ont retrouvé une spontanéité.
Père, où en sont les jésuites actuellement? Ils sont toujours présents actuellement au Brésil.
Au Brésil, oui, bien sûr. Je ne saurais pas dire leur nombre.
Est-ce que les crises qui touchent aujourd'hui, par exemple les ordres religieux, est-ce que ça touche aussi les réalités de ces pays-là?
Oui, un peu. Oui. Un petit peu. Il y a une moindre. Il y a moins de vocations qu'il n'y en a eu. Et c'est vrai pour un peu tous les ordres religieux et les prêtres. Mais enfin, ça reste des proportions relativement importantes par rapport à ce qui se passe chez nous. Mais de fait, il y a une certaine usure. Mais ça, moi, je crois que c'est... Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la culture, elle est mondiale. Enfin, disons, on parlait du foot tout à l'heure. Oui. Le foot, c'est une culture mondiale aujourd'hui. Bon. Tout le monde va regarder ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui par les médias, les moyens de communication, etc., cassent un certain nombre de...
Mais le catholicisme aussi, il est mondial.
Bien sûr. Oui, mais d'accord.
Pourquoi faudrait-il
aussi... Oui. Non, parce que je pense que sociologiquement, c'est plus encadré de la même manière, non? Et qu'on ne supporterait pas un encadrement catholique qu'on a pu connaître autrefois, où on doit suivre absolument les parents, le voisinage, etc. Hein, on est sorti de là.
Pour quelle situation aujourd'hui?
Ah ben peut-être, mais est-ce qu'on peut y retourner?
Non, je ne dis pas. Non, je dis pas,
bien sûr. Est-ce que vous êtes prêt à y retourner, vous?
Bon, on passe à vos médias respectifs, là. On va pas aller trop loin maintenant sur le... Que devient la vocation de l'invisible, alors? cette vocation d'être cette porte ouverte, cette première porte ouverte,
porte d'entrée. L'Invisible a été fondée, a été créée pour ça, effectivement, il y a un peu plus de 4 ans et demi, par Hubert de Torcy donc, et Jean-Baptiste Fourtanet.
Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça marche ?
Alors, ça dépend.
Vous êtes heureux ?
On est très heureux, effectivement. C'est un travail qui est réjouissant au quotidien parce que on essaye d'annoncer la foi et puis on est vraiment aussi dans une recherche d'apporter des infos porteuses d'espérance. Donc c'est quand même, pour un journaliste, c'est réjouissant. Enfin, c'est vraiment, on n'est pas à chercher le scoop ni les infos catastrophiques. On essaye vraiment plutôt d'élever le monde. Alors parfois on nous dit, ah oui, mais du coup c'est un peu le journal des bisounours. Peut-être, mais je pense que il y a tellement de mauvaises nouvelles par ailleurs que ça peut faire un peu antidote. Et effectivement, on a beaucoup de retours de lecteurs qui nous disent c'est quand même super sympa quand on reçoit votre journal, ça donne la banane, ça donne la pêche, et puis ça nourrit la foi et en même temps c'est facile à lire, c'est simple. Enfin voilà, donc on a beaucoup de retours de lecteurs qui disent que ça leur fait du bien quoi. Et nous c'est vraiment, d'ailleurs on a changé, même avec la nouvelle formule, on a changé notre baseline, on a appelé ça le journal qui vous veut du bien, parce que c'est vrai que c'est vraiment à ça qu'on travaille au quotidien, voilà.
Les prochains numéros, le prochain numéro peut-être de Christus pour l'été, là, qu'est-ce qu'on peut lire ?
Je crois que ça sera d'aider, de continuer à aider les lecteurs, c'est-à-dire des personnes, à se structurer davantage dans leur spiritualité, dans leur foi.
Ça, il commence par l'invisible et puis ensuite il
passe. C'est ça l'avenir, que vous disiez tout à l'heure.
Ouais.
Voilà. Donc le prochain numéro touche au corps, d'une certaine façon, avec un splendide article de Marguerite Léna, d'ailleurs, là-dessus.
Que l'on salue.
Oui. C'est la mer, délices et dangers. La mer MER, délices et dangers.
C'est Marguerite Léna ou c'est le...
Alors, c'est le titre du numéro. C'est
d'accord.
Le thème du numéro.
Donc un numéro sur la mer.
Sur la mer.
D'accord. Mmh. Donc sur, en particulier sur les voiliers, sur les... C'est quoi, c'est...
Alors, entre autres, il y a le récit d'une session qui se fait tous les ans avec le père Bernard Bougon et qui s'intitule « Père en mer ». C'est 20 pères de famille qui prennent une semaine... et qui longent les côtes avec une réflexion sur leur vie de famille, leur vie de foi, leur vie de père, etc. C'est aussi Arnaud de Boissieu qui nous parle des soutiers de la marine marchande, des Philippins, parce que c'est ça aussi la mer.
Bien sûr.
Voilà. Et puis alors c'est Marguerite Léna qui nous parle des vagues, et de la manière dont on se laisse saisir et toucher par les vagues, et dont ça lui évoque la manière dont Dieu peut nous envelopper aussi.
Bon, ça donne envie de le lire. Et on termine avec Famille Chrétienne. Alors, les numéros qui viennent. Là, vous êtes en train de travailler sur quoi, vous ?
Alors, je viens de terminer ce gros dossier sur le sport. Voilà, merci. Les séries d'été vont commencer bientôt. On va avoir toute une série, par exemple, sur qui va s'appeler un lieu, un saint, c'est-à-dire les lieux importants en France qui sont attachés à une personnalité. Il va y avoir toute une série sur les personnalités de la Première Guerre mondiale, général de Castelnau,
Peggy.
Voilà, oui, Sainte Thérèse. Donc à la fois des combattants, des
Sainte
religieux.
Sainte Thérèse, oui, tout à fait. Oui.
Des combattants, des religieux, des laïcs, des... et donc ça, tout le temps, le temps passe très vite, ce qui est bon signe, on s'ennuie pas, on fait des tas de choses.
Merci à tous les trois. Oui, vous vouliez ajouter ?
Non, je voulais juste ajouter parce qu'en fait,
que
l'invisible, on peut s'abonner aussi individuellement parce que souvent les gens ne le savent pas.
D'accord.
Si vous le recevez pas, vous pouvez vous abonner sur notre site internet, l'invisible.com. Voilà.
Merci à tous les trois. Merci à Gilles pour sa réalisation. À la semaine prochaine.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie.
Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Voici la servante du Seigneur.
Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant